autour de la question.
Qu'est-ce que ça va changer?
Comment ça se passe ailleurs?
Pourquoi ça?
Pourquoi ça nous touche?
Caroline Lachowski.
Bonjour, ravie de vous retrouver, chers amis auditeurs et auditrices, avec Hugo Violas à la réalisation, pour nous intéresser à des laboratoires de recherche très particuliers, hautement sécurisés, les P4, où sont étudiés les virus les plus dangereux de la planète, Ebola, virus Nipah ou Marburg, hautement pathogènes, plus meurtriers encore que les coronavirus, qui eux sont classés 3 sur cette échelle de dangerosité. Comment fonctionnent ces laboratoires P3 et P4 ultra sécurisés et sous haute surveillance, qui ont fait l'objet de nombreuses rumeurs et de fausses informations? Pour aller au-delà justement des fausses rumeurs et des fantasmes, véhiculés notamment sur grand écran, dans les films de science-fiction, mais aussi sur les réseaux sociaux, regard croisé de chercheurs qui y travaillent et qui dirigent ces laboratoires P4 à travers le monde, le professeur Hervé Raoul, qui dirige le laboratoire P4 de l'Institut Mérieux-Inserm à Lyon, le professeur Gaël Maganga, premier Africain à diriger le laboratoire P4 du CIRMF à Franceville, au Gabon. Nous serons également en ligne avec le professeur Thomas Mettenleiter, qui dirige l'Alcatraz des virus sur l'île de Reims, dans la Baltique, au nord de l'Allemagne, le plus ancien laboratoire de recherche ultra sécurisé en santé animale. Tous trois nous feront partager leur quotidien sous haute surveillance, leurs protocoles, les mesures de protection radicales appliquées à tous ceux qui manipulent et étudient ces agents hautement pathogènes dont il faut à tout prix éviter la propagation, mais dont l'étude est absolument indispensable, car carrément vital pour notre santé à tous. Autour de la question comment fonctionnent les laboratoires P4, bienvenue pour nous poser ensemble toutes les questions qui ressurgissent à l'heure de la pandémie. Et elles sont nombreuses, ces questions, puisque ces laboratoires P4 de très haute sécurité alimentent beaucoup de fantasmes. Je tiens d'autant plus à vous remercier d'avoir accepté de participer à cette émission en direct par téléphone depuis Lyon, où vous dirigez le laboratoire P4 de l'Institut Mérieux-Inserm. Bonjour professeur Hervé Raoul.
Bonjour.
En ligne et en direct également avec nous depuis Franceville, au Gabon, le directeur du laboratoire P4 du CIRMF, le centre interdisciplinaire de recherche médicale de Franceville, au Gabon. Bonjour professeur Gaël Maganga.
Bonjour.
Merci à tous les deux donc de nous accorder une heure de votre temps précieux pour répondre à toutes nos questions sur ces laboratoires de très haute sécurité. J'ai envie de commencer en mettant les pieds dans le plat avec la question postée par un de nos fidèles auditeurs à Brazzaville, Miguel Capitao, qui vous demande tout simplement et carrément pourquoi des laboratoires comme les P4 existent, si ce n'est pas pour préparer des guerres bactériologiques et nous mener là où nous en sommes aujourd'hui. Alors une question qui a le mérite d'être direct et vous permettre de répondre tout de suite. Qui veut commencer? Peut-être le professeur Hervé Raoul?
Oui, bah écoutez, je veux bien. Alors très clairement, pour répondre de façon directe à la question, ces laboratoires ont été construits et conçus en fait pour répondre à des problèmes de santé. Mm-hmm. Lorsque les premiers virus très dangereux ont commencé à émerger et à se répandre dans certaines populations en Afrique, et il fallait, compte tenu de la dangerosité de ces virus, il fallait concevoir des zones d'études qui permettent à la fois de protéger les gens qui travaillent dans ces laboratoires et protéger aussi l'environnement, donc faire tout ce qu'il fallait pour qu'on puisse clairement empêcher leur dispersion dans l'environnement. Mais avant tout, évidemment, ces laboratoires ont été conçus pour traiter des problèmes de santé.
Professeur Gaël Maganga, votre réponse à cette question, pourquoi un tel laboratoire existe au Gabon, à Franceville?
Alors effectivement, ma réponse va aller dans le sens du professeur Raoult. C'est que déjà à Franceville, le laboratoire P4 est né. C'était suite aux nombreuses épidémies à virus Ebola en fait, qui ont émergé au début des années 90. Donc effectivement, pour la riposte et la lutte contre ces maladies-là, cette maladie épidémique très mortelle, bien, il fallait créer les conditions de sécurité suffisantes et maximales, justement pour pouvoir répondre à l'urgence sanitaire qui était là, donc déjà en termes de diagnostic. Mais après, on sait que dans un P4, voilà, des recherches aussi peuvent être menées sur ces agents pathogènes-là, très hautement contagieux.
Il y a de nombreux laboratoires P4 aujourd'hui, une trentaine environ dans le monde entier, avec des spécificités au niveau des virus étudiés. Je sais que vous avez tous les deux beaucoup travaillé et fait d'immenses découvertes autour des virus Ebola. Est-ce qu'il y a des spécificités selon les laboratoires, selon leur situation, non pas selon leur niveau de protection, hein, c'est vraiment le même partout, le niveau P4, c'est le maximum, hein.
Oui, absolument. C'est le même niveau partout, même s'il peut y avoir certaines différences dans le concept lui-même. Mais en dehors de ça, dans ces laboratoires, on va travailler effectivement, vous avez mentionné Ebola parce que ça a été probablement un des premiers, mais il y a beaucoup d'autres virus. Alors d'ailleurs, j'en profite pour préciser qu'actuellement, les pathogènes qui sont manipulés dans ce genre de laboratoire sont tous des virus, ça pourra peut-être changer à l'avenir, qui répondent en fait à une définition, hein. Ce sont des pathogènes qui sont extrêmement dangereux, c'est-à-dire que lorsque vous êtes contaminé par ces pathogènes, le taux de mortalité va être très élevé. Donc on peut aller de 10% à 90% pour certains virus.
De mortalité, de dangerosité.
Voilà, exactement. Ensuite, ce sont des pathogènes pour lesquels on ne dispose absolument d'aucun moyen thérapeutique, donc pas de traitement. Ce sont des pathogènes pour lesquels il n'existe pas de vaccin efficace et en général dont la transmission est relativement aisée. Voilà. Et donc répondre à ce type de critères, un certain nombre de virus, donc on a évoqué Ebola, mais il y a aussi son petit frère qui s'appelle Marburg, qui sont deux filovirus. Vous avez ensuite d'autres virus responsables de fièvre hémorragique dont certains sévissent de façon très large en Afrique comme le virus de Lassa. Avec ses petits frères du Nouveau Monde, c'est-à-dire qui ont émergé en Amérique du Sud, que sont Guanarito, Sabia, Machupo et Runin. Et ensuite, vous avez un autre virus responsable de fièvre hémorragique qui, lui, sévit notamment en Europe de l'Est, hein, qui est le virus de Crimée-Congo. Et puis, des nouveaux entrants dans le milieu des années 90, avec des virus, cette fois, responsables d'encéphalites gravissimes, et aujourd'hui aussi de troubles respiratoires majeurs, que sont notamment les virus Nipah et Andra.
Et précisons aussi que les coronavirus donc, ne rentrent pas dans cette catégorie de plus haute sécurité P4. Hein.
Non, d'une façon assez historique. Les coronavirus, pour les plus dangereux, ont toujours été manipulés en laboratoire de niveau 3. Et certains, même pas, parce qu'il y a certains coronavirus qui sont même de la classe 2.
Et comment, quelles sont les différences en termes de sécurité? Le P4, c'est le maximum. Vous avez des équipements monstrueux, si j'ose dire. Vous avez l'air de cosmonaute à l'intérieur pour faire une sorte de comparaison. C'est vraiment, quel est ce niveau de sécurité absolue qu'on trouve dans les P4?
Alors, le niveau de sécurité, il est multifactoriel. C'est-à-dire qu'effectivement, vous avez une enceinte qui répond à un certain nombre de critères, notamment d'étanchéité, de capacité de traitement de l'air, sortant notamment, et de capacité de traitement tout ce qui va être produit en termes de déchets dans le laboratoire, qu'on ne rencontre pas à ce niveau de sécurité dans les autres laboratoires, notamment de niveau 3. Ensuite, vous avez un certain nombre d'équipements qui sont utilisés dans le cadre du laboratoire, donc comme celui que nous avons à Lyon et dans certains autres laboratoires dans le monde, on travaille en scaphandre, autonome dans ces laboratoires. Les gens travaillent dans des scaphandres qui sont maintenus en surpression pour qu'ils soient dans la même ambiance que s'ils étaient à l'extérieur du laboratoire et que si un problème d'étanchéité du scaphandre survenait, eh bien à ce moment-là, l'air irait toujours depuis la personne vers le laboratoire et pas l'inverse, donc ils seraient toujours protégés. Et ensuite, vous avez des systèmes de douche chimique qui permettent de décontaminer entièrement le scaphandre que vous portez à la sortie du laboratoire. Et la dernière chose, qui est importante à mon sens, c'est toutes les procédures de travail qui sont mises en place, qu'on ne rencontre pas dans d'autres laboratoires, qui sont des procédures extrêmement strictes, qui doivent être respectées à tout moment.
Autour de la question comment fonctionnent donc ces laboratoires P4 dans le monde, j'ai dit on en compte plus de 30 hein, sur tous les continents, principalement aux États-Unis, en Asie, en Europe, en Chine bien sûr. On y reviendra aujourd'hui un peu partout sur le globe. Il y en a deux en Afrique, hein, le vôtre au Gabon, Gaël Maganga, et puis il y en a un en Afrique du Sud. J'ai envie de vous emmener direction le nord de l'Allemagne maintenant, sur la petite île de Rhym, sur la Baltique, pour y retrouver l'un de vos éminents confrères, le professeur Thomas Mettenleiter. Mettenleiter, qui dirige le plus ancien centre de recherche sur les virus en santé animale. C'est l'Institut Friedrich Loeffler qui a été fondé en 1910 sur cette petite île isolée de la Baltique, l'île de Rims, par Friedrich Loeffler, donc, qui n'est autre que le découvreur du virus de la fièvre aphteuse, le premier virus identifié sur un animal. Loeffler avait alors choisi cette île isolée, à l'époque reliée uniquement au continent par un téléphérique, avec deux cabines, hein, une pour les chercheurs et l'autre pour les animaux, d'où son surnom de l'île au virus, pour mener ses recherches en toute sécurité. L'Alcatraz des virus, comme on le surnomme aussi, est depuis 1971 relié par un pont au continent. L'Institut a été totalement agrandi, modernisé. Il abrite depuis 2013 un laboratoire P4 de très haute sécurité où sont menées des recherches de pointe sur les virus les plus dangereux pour les animaux, mais pas seulement, comme nous l'explique donc son directeur, le professeur Thomas Mettenleiter, internationalement reconnu pour ses travaux et découvertes sur les virus de l'herpès, que j'ai pu joindre par téléphone dans son bureau sur l'île de Rims, avec vue sur la Baltique, et qui a, comme vous, messieurs et chers professeurs, accepté très simplement, très naturellement, de répondre à mes questions forcément très axées sur la biosécurité entre fantasmes et réelles menaces.
L'Institut a été fondé ici il y a plus de 100 ans, à une époque où il existait encore peu de protection technologique en termes de biosécurité. Et les expériences sur la fièvre aphteuse qu'a menée Loeffler sur le continent ont déclenché de nombreux foyers infectieux, en dehors des centres de recherche. C'est pour cela qu'il a décidé d'installer cet institut sur une île. Une solution similaire avait d'ailleurs été trouvée au Danemark et aux États-Unis. Aujourd'hui, nous avons des technologies beaucoup plus sophistiquées en termes de biosécurité. Et donc, il n'est pas du tout obligatoire d'installer ce genre d'institut sur une île, comme c'est le cas ici. D'un autre côté, je dis toujours que je me sens tout de même mieux de savoir que cet institut est sur une île et pas ailleurs sur le continent. Donc, ce n'est pas obligatoire aujourd'hui, mais le fait d'être sur une île apporte probablement un peu plus de sécurité, même si c'est à la marge.
Comment travaillez-vous, Thomas, sur les virus les plus dangereux dans ce nouveau laboratoire P4 sur l'île de Rims? Comment êtes-vous équipé, protégé? Quel est le protocole? Est-ce qu'il vous arrive d'avoir peur, malgré votre expérience?
D'abord, nous sommes des experts qui travaillons avec les virus, donc nous n'avons absolument pas peur de travailler avec eux. Il y a du respect. Nous savons comment les traiter et comment les gérer. En termes de P4, nous avons un laboratoire opérationnel depuis le milieu de l'année dernière. C'est une installation toute nouvelle qui a été construite dans les 6 à 8 dernières années. Ici, nous avons des niveaux de biosécurité qui vont de 2 à 4. Et pour rentrer dans le niveau de biosécurité 4, il faut d'abord passer à travers des SAS jusqu'au niveau 3 de biosécurité. Ensuite, vous traversez un autre SAS et vous arrivez dans ce qu'on peut appeler un vestiaire. C'est là que vous enfilez votre tenue. C'est une tenue de laboratoire. C'est comme si vous travailliez avec une tenue d'astronaute dans un sous-marin. Donc nous avons une très haute protection pour ne pas contaminer l'environnement, mais aussi bien sûr de très fortes protections pour nous protéger nous-mêmes. Donc on enfile notre tenue, on vérifie que tout est bien serré et ensuite cette tenue est un peu gonflée pour qu'il y ait une légère surpression. Nous avons de l'air extérieur, filtré, et là nous pouvons entrer dans cette zone particulière.
Qu'est-ce que vous redoutez le plus, Thomas Mettenleiter? On a bien compris que vous n'avez pas peur, mais vous devez tout de même faire preuve d'une extrême vigilance.
Je pense qu'il faut faire attention, bien sûr. Et c'est pour cela que les seules personnes qui ont accès à cet endroit particulier sont des personnes qui ont été très formées. Il y a des profils différents. Certains ont été formés à l'étranger, par exemple dans les laboratoires P4, ailleurs, en Allemagne, par exemple au Canada ou en Australie. Désormais, nous pouvons former notre propre personnel. Donc, il vous faut passer par cette période de formation avant de vraiment pouvoir entrer dans un laboratoire P4. Et plus encore, il vous faut avoir un certain nombre d'accès et d'autorisations avant de pouvoir y rentrer tout seul.
Sur quoi vous et vos équipes travaillez actuellement dans ce laboratoire P4 à l'Institut Friedrich Loeffler sur cette île de la mer Baltique?
Nous travaillons en ce moment avec, par exemple, les paramyxovirus, les filovirus et les arénavirus. Ce sont des agents qui sont fortement pathogènes pour l'homme, pour les humains. Et pour la plupart d'entre eux, il n'existe aucun traitement, aucune prévention possible. Et c'est pour cela qu'ils sont catégorisés en classe 4 en termes de biosécurité. Ce qui est intéressant de noter pour un virologue, c'est que dans cette catégorie la plus haute de biosécurité, il y a seulement des virus.
Vous voulez dire que ce sont les virus, hein, bien plus que les bactéries qui sont dangereux pour l'homme comme pour les animaux.
Exactement. Ces virus sont tous fortement pathogènes pour l'homme. Et quand j'insiste sur le fait qu'il y a seulement des virus dans cette catégorie à risque le plus élevé, je veux dire que pour les bactéries, le niveau de biosécurité le plus haut, avec le risque le plus fort, c'est le niveau 3. Aucune bactérie n'est considérée comme étant de catégorie 4. Donc, dans la Ligue des champions des pathogènes, il n'y a que des virus.
Ah, ce sont les virus, hein, vraiment, qui sont les plus dangereux, les plus hautement pathogènes, pour les hommes comme pour les animaux. Et dans votre laboratoire P4, Thomas, vous étudiez à la fois les virus qui peuvent affecter les hommes comme les animaux, c'est ça?
Oui, nous avons deux zones différentes qui sont catégorisées comme relevant du niveau 4 de biosécurité. L'une d'entre elles, c'est le vrai P4, dans lequel nous travaillons avec des virus qui sont pathogènes pour l'homme. Et l'autre zone est, comme on l'appelle, le P4 consacré aux animaux. C'est là que nous travaillons avec des agents pathogènes qui sont fortement pathogènes pour les animaux, mais pas pour les humains. Par exemple, la fièvre aphteuse. Pour protéger l'environnement, ces virus sont sous protection par rapport à l'extérieur. Ces deux zones dans notre institut de recherche sont presque identiques. La différence, c'est que dans l'une d'elles, où nous travaillons seulement avec des virus pathogènes pour les animaux, le personnel n'a pas besoin d'être fortement protégé. Alors que dans l'autre zone, celle consacrée aux pathogènes humains, il y a bien sûr un très haut niveau de protection des scientifiques et du personnel.
Car vous étudiez des virus qui peuvent franchir la barrière des espèces, hein, passer de l'animal à d'autres animaux et à l'homme.
La plupart des virus qui sont actuellement classés niveau 4 sont appelés virus zoonotiques, qui peuvent passer de l'animal à l'homme et qui peuvent probablement aussi revenir de l'homme jusqu'à l'animal, comme cela a été le cas de certains virus. Ce n'est pas notre axe de recherche principal, mais ce que nous faisons dans ce laboratoire P4, c'est de comprendre les interactions entre l'agent viral et la cellule hôte d'un côté, et de l'autre, les interactions entre l'agent viral et l'hôte naturel. Très fréquemment, ce que l'on appelle l'hôte naturel, par exemple, pour certains de ces virus, est un animal qui n'est pas forcément un animal exotique. Il peut aussi s'agir de bétail. Par exemple, le virus de la fièvre hémorragique de Crimée-Congo est le seul agent viral de niveau 4 présent en Europe du Sud-Est. Et il en existe un réservoir chez les ruminants, et notamment des ruminants particulièrement petits. Donc c'est ce sur quoi portent nos recherches, ce sont les deux sujets sur lesquels nous travaillons dans notre laboratoire P4.
Vous avez aussi été sollicité, hein, votre institut, pour mener des recherches sur le nouveau coronavirus, le Covid-19 ou SARS-CoV-2.
Le nouveau coronavirus, le coronavirus 2, est un agent viral de catégorie 3. Donc il n'est pas dans la classe des virus au niveau de risque le plus élevé. Nous travaillons avec ce virus dans un laboratoire P3, c'est-à-dire de niveau 3 en termes de sécurité biologique. C'est là qu'on s'occupe des virus transmis aux animaux. Nos recherches à ce sujet, en ce moment, consistent à comprendre la sensibilité de certains animaux face à ce coronavirus. C'est un virus zoonotique qui vient très probablement d'une source animale, notamment des chauves-souris en Chine. Mais nous testons d'autres espèces animales, plus proches de l'homme et susceptibles d'être infectées. Donc nous avons mené des expériences d'infection, par exemple sur des cochons et des poules. Nous avons aussi testé des chauves-souris tropicales, dont nous gardons une colonie ici à l'Institut à Reims. Et nous avons aussi testé des furets, comme modèle potentiel pour l'infection humaine. Les furets sont de petits carnivores. Nous savons que les furets sont susceptibles d'être infectés. Et après une récente épidémie aux Pays-Bas, nous savons que les visons sont aussi susceptibles d'être infectés par le nouveau coronavirus.
Ça doit être une sorte de ménagerie, votre île avec toutes sortes d'animaux, de virus et de chercheurs humains.
C'est une sorte de ménagerie, c'est vrai. Nous avons un éventail d'espèces animales que nous pouvons garder dans nos installations pour les animaux. Et je dis toujours que nos animaux d'expérimentation sont notre personnel clé, des collègues essentiels que nous avons ici à Reims.
Quelles recherches menez-vous avec vos collègues animaux, comme vous dites? Que peuvent-ils nous apprendre sur ce coronavirus? Quel est votre point de vue sur ce qui nous arrive, Thomas Mettenleiter, votre angle de recherche?
We are a federal research institute for animal health, and animal in this context meaning food producing animals.
Nous sommes un institut de recherche fédérale pour la santé animale. Et les animaux, dans ce contexte, ce sont les animaux destinés à la production alimentaire. Nous voulons particulièrement comprendre si ce nouveau virus présente un risque d'infection sur le bétail et la volaille, par exemple. Ce que je peux vous dire, c'est que nos premières séries expérimentales sur les cochons et les poules n'ont pas produit de résultats positifs. Il n'y a aucune indication qui permette d'affirmer que les cochons ou les poules sont sensibles à ce virus particulier. Nous sommes maintenant en train de mettre en place une autre série dans laquelle nous allons tester les bovins, car ce sont les animaux producteurs de nourriture qui sont les plus proches de l'homme. Et nous avons des expériences du passé. Par exemple, la grippe porcine a été transmise à un troupeau de porcs en Europe par des personnes infectées ou des personnes qui avaient été infectées par le virus de la grippe porcine. Cela ne semble pas être un risque pour le nouveau coronavirus, mais il y a d'autres espèces, bien sûr, qu'il faut tester. Je sais que des collègues en Chine ont testé des animaux de compagnie, des chats et des chiens. Ils ont testé des canards qui étaient complètement résistants. Ils ont testé des dindes qui étaient aussi résistantes. Donc le virus semble être un danger pour les mammifères, mais seulement pour un nombre très restreint d'espèces différentes.
Vous cherchez à comprendre par quel mécanisme ces animaux parviennent à résister à ce nouveau virus.
This is an interesting question indeed. We would like to understand, for example, why pigs are resistant.
C'est une question intéressante, en effet. Nous aimerions comprendre, par exemple, pourquoi les cochons sont résistants. Ils ont quelque chose qui ressemble à un récepteur, comme une molécule d'entrée pour le coronavirus. Une molécule qui n'est pas si différente de la version humaine. Mais en tout cas, ils sont résistants, apparemment. Ce sont des questions pour lesquelles nous allons aussi chercher des réponses. Mais en ce moment, pour nous, l'axe majeur de recherche en termes d'évaluation du risque concerne le bétail et la volaille, qui pourraient devenir un réservoir pour le virus, et donc devenir un danger potentiel pour les humains ensuite. Et au moins, pour ces deux espèces de bétail, pour les cochons et pour les poules, nous avons montré que ce n'était pas pertinent.
Merci infiniment pour ces explications, Thomas Mettenleiter. Je vous laisse travailler, mener vos recherches sur l'île au virus à l'Institut Friedrich Loeffler que vous dirigez. Une dernière question peut-être, sur laquelle réagiront d'ailleurs nos invités. Qu'est-ce qu'un virus pour vous? Est-ce que vous pourriez nous en donner une définition?
En tant que virologue, je définirais le virus comme une forme de vie. C'est la forme de vie la plus abondante que nous ayons sur Terre. C'est une nanoparticule infectieuse qui est un type de matériel génétique enfermé dans une enveloppe de protéines. Et ce qui est intéressant, ce n'est pas seulement qu'il existe autant de virus. Nous sommes entourés par les virus, ils font partie de notre écologie, ils sont tout autour de nous, tout le temps. Mais les virus sont aussi les moteurs de notre évolution. Les virus sont responsables, par exemple, de la rotation permanente des composés organiques, en particulier dans les océans. Donc, alors que la plupart d'entre nous voyons les virus comme quelque chose de dangereux, qui doit être combattu, contrôlé et vaincu, les virus sont absolument essentiels pour notre vie et pour l'évolution sur Terre.
Qui veut réagir à ces propos de Thomas Mettenleiter, directeur de l'Institut Friedrich Loeffler et de son laboratoire P4 situé sur l'île de Rhin dans la mer Baltique? J'imagine, Hervé Raoul, Gaël Maganga, que vous êtes, vous avez vous aussi une définition à nous donner des virus. Est-ce que vous partagez celle de Thomas Mettenleiter? Qui veut réagir?
Alors, je vais réagir.
Gaël si Maganga, bien sûr.
Alors donc effectivement, la définition la plus classique, hein, la plus commune qu'on donne des virus, c'est que ce sont en fait des agents infectieux, hein, pour la plupart, qui sont dotés de la capacité de se répliquer dans des cellules hôtes. Donc en fait, le virus, pour se répliquer, il faut qu'il infecte une cellule vivante dans laquelle il va se multiplier. Alors la particularité aussi des virus, c'est qu'il en existe de plusieurs catégories. Et on a principalement deux, hein, en fonction de la nature de leur matériel génétique. qu'il y a des virus qui sont qui ont un acide nucléique à base d'acide ribonucléique, hein, qu'on appelle l'ARN. Mm-hmm. Et puis il y a des virus qui sont des virus dits à ADN, donc qui ont un matériel génétique composé d'ADN. Et ce qui est plutôt fascinant, c'est avec les virus à ARN, c'est que d'une manière générale, ils sont un peu plus abondants que les virus à ADN, leurs frères. Mais surtout, en fait, c'est des virus qui ont une particularité importante, c'est que du fait de la nature de leur matériel génétique, ils sont dotés d'une capacité à muter et à recombiner, qui est assez extraordinaire, notamment pour certains. Je peux citer, par exemple, des virus influenza, donc ceux responsables de grippe, et on peut aussi le voir pour les coronavirus. Donc, en fait, la particularité, c'est que ces micro-organismes, quand ils sont présents dans un environnement, il suffit qu'il y en ait plusieurs. Voilà, il n'est pas exclu que par des phénomènes donc génétiques de recombinaison, qu'on ait une diversité en fait importante qui apparaisse.
Oui, ils sont capables de diversifier comme ça, Gaël Maganga. Et ce qui explique aussi qu'ils circulent autant, enfin, qu'ils circulent des animaux à l'homme et puis retour à l'animal, enfin, que ce soit comme ça, que des animaux soient des réservoirs et qu'ensuite, ils échappent complètement, évidemment, ces virus à tout contrôle, comme on pourrait l'imaginer.
Effectivement, et en fait, il faut dire que tout ça est quand même conditionné par des conditions. Il faut quand même que certaines conditions soient remplies, parmi lesquelles c'est déjà en fait les interconnexions, la proximité entre l'homme et les animaux, la proximité entre différentes espèces animales. Donc ce sont des conditions sine qua non en fait pour que ces virus-là se rencontrent. Et après, vous avez des échanges qui se font et en fait de nouveaux virus qui peuvent apparaître, qui peuvent émerger. Et entraîner de nouvelles épidémies ou de nouvelles pandémies.
C'est-à-dire qu'au fond, nos modes de vie, notre circulation, le fait qu'on détruise les habitats naturels des animaux, ne fait qu'encourager. Enfin, c'est génial pour les virus, quoi, pour le dire très très simplement.
Mais en fait, c'est des facteurs favorisants, sans nul doute. Voilà, c'est des facteurs favorisants. C'est-à-dire la mondialisation, donc les échanges, la perturbation de la biodiversité, l'empiètement sur la biodiversité, tous ces éléments-là font que on va favoriser en fait le contact, donc le rapprochement entre ces agents pathogènes ou entre les espèces qui hébergent ces agents pathogènes-là.
Et oui, c'est ça.
On a parlé d'espèces réservoirs. Donc ce sont ces espèces-là en fait qui vont être à l'origine, suite au contact fréquent, régulier avec les populations humaines, favoriser en fait le rapprochement entre ces agents infectieux et les populations humaines ou d'autres populations animales.
Voilà pourquoi on vous retrouvera tout à l'heure, hein, professeur Gaël Maganga, dans la forêt tropicale humide du Gabon, en train de chercher justement, de traquer les chauves-souris réservoirs de ces virus. Autour de la question comment fonctionnent ces laboratoires P4, hein, où vous étudiez donc les virus les plus dangereux, donc au Gabon, Gaël Maganga, à Lyon, l'Institut Mérieux-Inserm, Hervé Raoul. On va continuer de s'interroger juste après avoir écouté votre très joli choix musical, professeur Gaël Maganga, quand s'il reprend James Brown, It's a Man's Man's World, sur RFI. This is a man's world. This is a man's world. But it wouldn't mean nothing, nothing without a woman or a girl. You see, to take us over the road, man made the trains to carry the heavy load, man made the electric light to take us out of the dark. Man made the boat for the water like no one made the earth. This is a man's world, a man's world, but it wouldn't mean nothing, nothing without This is a man's world, James Brown, repris par Seal sur RFI. C'est votre choix musical, professeur Gaël Maganga, et on le partage. Autour de la question comment fonctionnent les laboratoires P4, celui que vous dirigez au CIRM de Franceville au Gabon, Gaël Maganga, celui que vous dirigez à Lyon, professeur Hervé Raoul, le laboratoire Jean-Mérieux INSERM, où vous avez d'ailleurs travaillé, comme le professeur Maganga, beaucoup sur le virus Ebola. Vos deux laboratoires ont fait de très grandes découvertes, et pas seulement en laboratoire, Gaël Maganga, car vous continuez à aller dans la forêt, au plus près de ces animaux réservoirs de tous ces virus, pour comprendre comment ils évoluent, comment ils se transmettent. Je propose d'écouter un extrait de l'excellent documentaire diffusé sur Arte, Épidémie, la menace invisible, tourné en 2014, où l'on vous retrouve, Gaël Maganga, sur la trace des chauves-souris. Il faut juste imaginer dans quelles conditions vous êtes équipé, on l'a dit, un peu comme un astronaute, masque, gants, combinaison, et il fait très très chaud dans la forêt tropicale humide du Gabon.
Voilà votre cadeau, docteur.
Oh, mais celle-là, elle est là depuis. Et puis, non. On la tient avec les gants.
Avec les gants, vous avez peur du virus Ebola. Mmh. Ici, il n'y a pas le virus Ebola.
C'est ça qu'on va justement essayer de chercher. Il faut éviter tout contact avec l'éjection ou tout produit de sécrétion ou d'excrétion. Et même avec tous les supports potentiellement contaminés.
Il y a eu des cas de contamination de chercheurs, mais c'était surtout des spéléologues qui allaient dans des grottes. Et même pour, il y a eu des cas de contamination pour le virus Marburg. Donc toujours de spéléologues, des gens qui allaient en visite, même des touristes qui rentraient dans les grottes et qui au sortir de là étaient infectés, quoi. Il y en a qui se sont fait griffer par des chauves-souris.
Bon, donc tu disais que la sortie, c'est là.
La sortie principale, c'est ici.
D'accord. Donc si on doit poser le filet, essayer de couvrir tout le long, là.
Le principe, bloquer l'entrée avec un filet. Puis ils devront pénétrer eux-mêmes dans la grotte pour forcer les chauves-souris à sortir en direction de leur piège.
Là, nous sommes dans les entrailles de la grotte.
Ouais, le monde des engloutis.
Et là, on entend le battement des ailes.
Ouais, oui.
Des chauves-souris.
Ouais. Avec le bruit de la rivière qui coule.
C'est assez impressionnant.
Oh. Il coulait là. Toujours bien observer là-bas où on pose le pied.
Il y a vraiment une faune importante dans cette grotte, quoi. Entre les insectes, les crabes, les poissons, les chauves-souris. Ah oui, là, c'est vraiment le milieu idéal pour la transmission de virus ou d'autres agents entre les espèces, quoi. Écosystème fermé, peu de renouvellement d'air, proximité entre les espèces, c'est les conditions rêvées pour la transmission des virus.
Il faut un sacré courage, j'ai envie de dire une sacrée résistance aussi, professeur Gaël Maganga, pour aller dans la grotte, récupérer les chauves-souris dans une région sur laquelle vous travaillez, sur le virus Ebola au Gabon.
Bah oui, je pense déjà qu'il faut, effectivement, il faut être passionné par ce qu'on fait pour aller dans ces environnements, dans ces milieux.
Comment vous êtes équipé? Dites-nous ça un peu.
Avec le risque de rencontrer en fait des espèces qui sont potentiellement porteuses de certains agents infectieux, donc il faut être protégé, hein, complètement. En fait, c'est un niveau de protection qu'on rencontre déjà dans des laboratoires de niveau 3, hein, c'est-à-dire combinaison, sur chaussures, double paire de gants, masque, visière, déjà combinaison à capuche, hein, visière, lunettes. C'est la totale, j'ai envie de dire. Aucune muqueuse ne doit être exposée, quoi.
Et il fait souvent plus de 40 degrés.
Conditions... Ouais. Ah oui, surtout quand on ne sélectionne pas la saison. Souvent, on y va en pleine saison des pluies, où il fait 35 degrés, 36 dans certaines régions, humidité élevée. Vous êtes dans une grotte où il y a peu d'air, vous suffoquez, vous êtes obligé, et ça j'ai oublié, vous êtes obligé d'avoir un masque, hein. FFP2, et donc oui, pour respirer, c'est suffocant pour rester des heures dans ces endroits. Il faut être résistant, il faut être préparé. Je pense que c'est pas tout le monde qui est capable d'avoir un niveau de résistance pour le faire, mais avec l'habitude, en fait, on s'y fait, quoi, et la passion.
C'est ça, et la passion, hein, on s'en doute bien. Et du coup, on comprend bien aussi l'intérêt d'avoir un laboratoire de très haute sécurité P4 sur place, hein, à Franceville, au Gabon, pour pouvoir ne pas transporter et pouvoir étudier directement sur place ces virus, les liens, les animaux réservoirs. Vous avez aussi, professeur Hervé Raoul, beaucoup travaillé à Lyon, hein, dans votre laboratoire Jean-Mérieux Inserm, classé P4 sur les virus, Ebola, Marbourg aussi, je crois. En tout cas, vous avez fait des découvertes autour d'Ebola.
Ah, écoutez, oui, on a à Lyon, on a une petite spécificité, c'est que compte tenu du niveau d'investissement pour construire et maintenir en état de fonctionnement un laboratoire comme celui-là, on souhaitait qu'il puisse être utilisé au maximum de sa capacité. Et donc, en fait, on l'a ouvert à toutes les équipes nationales et internationales D'accord. qui souhaitent accéder à ce genre de zone. Donc, ce qui fait que, du coup, on est amené à manipuler à peu près tous les pathogènes de classe 4 aujourd'hui dans le laboratoire de Lyon. Et donc, on a des vastes programmes sur Ebola, mais aussi sur Nipah, sur
oui,
Lassa.
Nipah, c'est ça. Le virus Nipah, hein, sur lequel vous occupe actuellement, c'est quoi? C'est un pathogène très dangereux, mais qui sévit plutôt en Asie du Sud, du Sud-Est, c'est ça?
Oui, c'est un virus qui a émergé en Asie du Sud-Est au milieu des années 90, donc en Malaisie d'abord, puis ensuite il s'est répandu jusqu'à l'Indonésie. Et puis ce virus ensuite a migré, et aujourd'hui on a des épidémies importantes, hein, au Bangladesh notamment, et en Inde l'année dernière, avec une souche qui a un peu évolué, donc qui était responsable au début essentiellement d'encéphalite gravissime, et qui, maintenant qu'il est présent au Bangladesh et dans la zone indienne, en fait, continue à être responsable d'encéphalite gravissime, mais crée un syndrome respiratoire sévère également. Et la plupart des gens meurent de ce syndrome respiratoire avant même de développer des symptômes neurologiques. Donc, c'est un virus qui est très dangereux, qui mérite qu'on conduise beaucoup d'études.
Oui, il n'y a pas que le coronavirus, il y a beaucoup d'autres virus. On verra cette question-là parce qu'il y a beaucoup de virus qui émergent d'Afrique, qui évoluent beaucoup en Asie, peut-être à cause de la population. Mais c'est peut-être aussi pour ça que vous avez, à l'époque, enfin l'Institut Mérieux à Lyon a collaboré et a même participé à la création de l'Institut PK de Wuhan en Chine, dont on a beaucoup parlé, plutôt en mal d'ailleurs. Ce site est donc installé à Wuhan, hein, où a démarré la pandémie de coronavirus. Il y a beaucoup de rumeurs qui ont circulé, qui continuent de circuler d'ailleurs sur ce laboratoire P4 créé en 2004 à Wuhan en Chine, en collaboration donc avec la Chine. De quoi vous faire réagir, hein, Hervé Raoul, bien sûr, mais avant de vous laisser le faire, surtout face à ces rumeurs et à ces accusations totalement infondées, je vous propose un petit rappel des faits. C'était sur France 5, le 26 avril dernier, dans l'émission C'est politique, au micro de Maxime Darquier.
C'est le laboratoire de haute sécurité épidémiologique de Wuhan en Chine, le fameux laboratoire P4. C'est dans ce genre de labo que les virus les plus dangereux au monde sont étudiés. Mais aujourd'hui, le P4 de Wuhan, il est suspecté d'être responsable de l'apparition du Covid-19. Tout a commencé fin janvier, quand Francis Boyle, un juriste américain et spécialiste des armes biologiques, fait une déclaration fracassante en direct sur YouTube.
Si vous faites une recherche Google pour savoir si la Chine possède un laboratoire P4, Wuhan apparaît immédiatement en tête de liste. Donc il me semble que le laboratoire P4 de Wuhan est la source du coronavirus.
Le laboratoire P4 de Wuhan, responsable de l'apparition du Covid-19, cette théorie, elle va embraser le net, les adeptes du complot, et le laboratoire, il va se retrouver dans l'œil du cyclone.
Voilà, dans l'œil du cyclone, Hervé Raoul. Alors, j'aimerais bien avoir votre point de vue là-dessus, parce qu'il lui semble à ce dirigeant américain, or on a bien dit que dans les laboratoires P4, déjà on n'étudie pas les coronavirus, mais qu'en pensez-vous? Et c'est vrai qu'on a aussi montré du doigt la France qui avait aidé à installer ce laboratoire P4 à Wuhan, en Chine.
Alors, je vais juste réagir déjà sur l'aspect historique, c'est-à-dire que la construction de ce laboratoire P4 à Wuhan, c'est l'objet d'un contrat de droit privé. Donc, à aucun moment, de toute façon, l'État et encore moins les instances de santé et de recherche françaises ont été impliqués dans ça. La seule chose qui a été faite à l'époque, c'est que ça a été encadré avec un accord intergouvernemental qui imposait une collaboration scientifique dans le domaine des maladies infectieuses émergentes. Voilà. Donc ça, c'est très important d'avoir ça en tête.
Bien sûr.
Ensuite, comme ça a été rappelé, effectivement, dans un P4, on ne travaille pas sur les coronavirus aujourd'hui. En tout cas, il n'y a pas de coronavirus qui répondent aux critères d'un pathogène de classe 4. Et la dernière chose, c'est qu'il y a une confusion aussi, c'est-à-dire que sur le site où est construit ce laboratoire à Wuhan, en fait, c'est un institut de virologie qui a un P4, mais qui a aussi beaucoup d'autres installations qui permettent de travailler sur plein d'autres pathogènes. Mais ce serait aussi ridicule d'accuser le P4 de Berlin, qui est situé au Robert Koch Institute, de faire des choses sur la rage, alors qu'en fait, c'est au sein de l'Institut et d'autres laboratoires que le P4 qui travaillent sur ce type de pathogène. Donc, moi, je ne sais pas ce qu'ils font dans l'ensemble de l'Institut, bien évidemment, puisque je n'y suis pas tous les jours, même si on a des collaborations scientifiques. Mais en tout cas, pour l'instant, de ce que j'ai entendu, ces accusations ne sont pas fondées. Il faut des faits pour ça.
Il faut des faits pour ça. Et effectivement, à la fois dans ça, voilà, on n'en sait rien. Mais en tout cas, vous n'avez plus de contact particulier avec ce laboratoire P4. Est-ce qu'il y a une vraie collaboration dans le monde entre tous les chercheurs, justement, qui travaillent sur des virus aussi pathogènes que ça?
C'est compliqué. Vous savez, la recherche ce domaine
dans
est soumise à la compétition internationale. Donc, il y a quand même une lutte saine, mais qui existe, qui est une réalité. Ensuite, nous avons des collaborations dans le cadre avec le P4 de Wuhan, dans le cadre de projets autour de NIPA, justement, qui a été monté entre nos deux pays et qui cherche à mieux étudier, justement, et mieux comprendre ce qu'est ce virus NIPA. Et donc, ça va depuis la compréhension de la maladie, donc des études de physiopathologie, jusqu'à la recherche de mise au point de moyens prophylactiques, donc des vaccins ou des drogues. Donc, il y a une collaboration, bien évidemment. Les chercheurs qui sont à Wuhan sont des collègues scientifiques au même titre que le seraient des chercheurs d'autres pays.
Autour de la question, comment fonctionnent ces laboratoires P4 et les chercheurs, comment vous faites aussi face donc à toutes nos peurs, rationnelles mais aussi irrationnelles? C'est une question que soulève tout de suite Yannick Rumpala, chercheur en sciences politiques, féru de science-fiction et écrivain. On l'écoute.
Moi, j'aurais envie de demander comment est-ce qu'il vit et pense tous les soupçons complotistes qui traînent autour de ces labos, parce que le nombre de scénarios qu'on a, nous, dans les romans, films, etc., sur ces fuites, ces manipulations et ces recherches militaires qui se transforment en menaces pour l'humanité, comment est-ce qu'il vit cet imaginaire, cette espèce de soupçon récurrent qui pèse sur leurs activités?
Comment vous vivez ça, Hervé Raoul, peut-être d'abord, et ensuite professeur Gaël Maganga?
Écoutez, c'est toujours compliqué parce que c'est une réalité. Il y a des rumeurs et des fantasmes qui existent dans la tête de certaines personnes, qui est en fait un héritage de la guerre froide, où à l'époque, et ça tout le monde le sait puisque ça a été écrit, les deux blocs, Est et Ouest, donc en gros américains et soviétiques, avaient développé ce type de programme en son temps.
Et donc à la programme chute du mur, de guerre bactériologique, enfin.
Absolument. Absolument, ça a été raconté dans plein d'ouvrages. Et donc, ça, c'est quelque chose qui se faisait à l'époque. À la chute du mur, tout ça a été connu, donc il y a beaucoup de choses qui ont été racontées. Et aujourd'hui, finalement, vous savez, il y a aussi une réglementation internationale forte qui oblige à contrôler et à déclarer tout ce que vous faites sur ce type de pathogène. Et au regard des collaborations qui sont conduites, malgré tout, malgré la compétition, nous avons des collaborations avec nos collègues dans les autres pays, que ce soit aux États-Unis, en Afrique, en Asie, on travaille ensemble, on apprend à se connaître, et très honnêtement, je n'ai pas le sentiment d'avoir des collègues qui, à un moment ou à un autre de leur carrière, travaillent sur le développement d'armements biologiques. Mais c'est un fantasme, c'est quelque chose qui est vendeur en plus, qui a fait l'objet de films, de reportages, voilà. Mais qui, de ce que j'en sais, en tout cas, sont tous sauf une réalité.
Et en tout cas, alors là, j'ai envie d'avoir votre point de vue, professeur Gaël Maganga, parce qu'on se rend bien compte à quel point c'est essentiel de mener cette recherche sur ces virus émergents qui passent de plus en plus la barrière des espèces. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, Gaël Maganga? Comment est-ce que vous vivez ça depuis le Gabon, depuis le CIRMF à Franceville?
Oui, effectivement, c'est une réalité. Hein. Vous avez des gens qui s'imaginent effectivement que dans ces laboratoires, on fait des choses qu'on ne déclare pas, qu'on manipule des choses potentiellement dangereuses, les théories complotistes. Effectivement, ça, c'est des choses aussi que l'on vit. Voilà. Mais il faut savoir quand même qu'aujourd'hui, ces laboratoires-là sont très scrutés, hein, scrutés. Mm-hmm. Même par les à l'international. Mm-hmm. Aujourd'hui, voilà, on a envie de savoir est-ce que les niveaux de sécurité sont aux normes, est-ce que le personnel qui y travaille est formé, est-ce que donc dès lors que vous estimez que voilà, vous travaillez comme il faut, que vous respectez les normes de sécurité et tout le reste, voilà, vous vous limitez juste à écouter ce qui se dit, voilà, sans plus. Hein.
Et vous continuez, Gaël Maganga, non seulement à travailler sur tous ces virus, mais j'ai envie de dire, et c'est ce que disait aussi le professeur Hervé Raoul, qu'il n'y a pas du tout que le coronavirus et qu'il ne faudrait pas peut-être oublier tous les autres virus qui vivent, c'est du vivant, hein, et qui vivent à nos dépens et à qui on laisse de plus en plus de place, hein, quand même, Gaël Maganga.
Mais bien entendu, et moi j'ai même envie de vous dire que notre activité première ici, ce n'est pas, quand je dis ici, c'est au Centre interdisciplinaire de recherche médicale de Franceville, écoutez, ce n'est pas que le travail en P4. Hein.
Bien sûr.
Je veux dire, sans exagérer, on peut y passer 2 à 3% de notre temps. Sinon, la plupart du temps, comme vous l'avez dit, il y a d'autres virus aussi importants d'intérêt sur lesquels on travaille et qui se manipulent en laboratoire de niveau 3.
Et c'est déjà pas mal. Hein. Merci infiniment. On va arriver à la fin de cette émission. J'aurais envie d'en reprogrammer une autre avec vous deux. Merci en tout cas infiniment d'avoir été en direct avec nous par téléphone, professeur Hervé Raoul, depuis le laboratoire Jean-Marie Unserm à Lyon. Merci beaucoup. Hein. Merci également Gaël Maganga depuis Franceville, donc au Gabon. Merci d'avoir accepté de répondre aussi naturellement, franchement, à nos questions. C'est peut-être le meilleur antidote, si ce n'est au virus, mais en tout cas aux fausses rumeurs et aux fantasmes qui se diffusent si vite aujourd'hui. Donc merci encore, bon travail et bonne recherche, elles nous sont vitales et essentielles. Et puis un grand merci au professeur Thomas Mettenleiter et à ses équipes que nous saluons depuis Paris jusqu'à l'île de Reims. Autour de la question, c'est fini pour aujourd'hui. N'hésitez pas à nous podcaster à volonté. Chers amis auditeurs et auditrices, merci pour votre curiosité. Merci pour votre interactivité. On se retrouve lundi prochain avec Hugo Violas à la réalisation, ici en studio, Caroline Fillette en coulisses à domicile et Caroline Lachowski au micro à RFI pour vous servir et pour vous faire écouter les coquilles Saint-Jacques. Oui, vous avez bien entendu, les coquilles Saint-Jacques, formidables indicatrices du milieu marin, véritables archives vivantes du climat passé. Vous en saurez plus avec celui qui sait faire parler les coquilles Saint-Jacques, le chercheur Laurent Chauveau. À suivre donc lundi. D'ici là, portez-vous bien, prenez soin de vous et surtout gardez l'esprit libre et ouvert à tous les possibles. À l'écoute de RFI, c'est bientôt l'heure du prochain journal.